Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Le soir, après le repas, Laurent lui dit « Je dois m'en aller. » Elle lui dit « Non, tu restes. T'en as pas envie. Moi. Pour toi. » Que le fait qu'elle lui dise ça, ça lui donne envie. C'est un plaisir nouveau et qui le rend homme. Donc il reste couché avec elle. Dans la nuit, chaque fois qu'ils font l'amour, elle lui dit « T'es un vrai homme, toi, t'es un vrai homme. » Ça le rend fier que cette tigresse le traite d'homme, surtout qu'il sait qu'elle a eu des amants, des aventures. Elle peut comparer, elle, mais pas lui. Ça ne le gêne pas qu'elle ait connu d'autres personnes. Bien au contraire, ça lui permet de comparer et de dire qu'il est mieux que les autres. Il est plus fier d'une femme qui a eu des aventures que si c'était une personne vierge et qu'il ne pourrait pas comparer et savoir qu'il est mieux que les autres. Il se réveille en retard. Merde! C'est la première fois qu'il risque d'être en retard. Il se lève d'un bond. Ça la réveille et lui dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il lui dit « Je suis en retard. » Elle se penche dans son cou et lui dit « Tu sais, c'est bon le matin. » Il se dégage difficilement de ce corps mou et bon. Elle lui dit « Je dois partir. » Elle soupire « T'es pas à 5 minutes près ?» Si, là, 5 minutes près, parce qu'il faut traverser toutes les Minguettes et même Vénitieux. Il se lève. n'a pas le temps de prendre sa douche, ni de se ranger. Il s'habille. Elle lui dit, attends, je vais te faire chauffer ton café. Il lui dit, non merci, j'ai pas le temps. Il sort de la chambre. Elle le suit. Et sort de l'appartement. Il descend les escaliers en vitesse. Il sort dans la rue, rentré dans sa voiture, toute crados à cause des gosses qui ont tout dégueulassé. Il se dit, il ne reviendra plus jamais ici, il ne reviendra plus, il ne verra plus cette fille. Il aime mieux se retourner pour se retrouver tranquille, retrouver sa tranquillité. Ne pense plus au plaisir qu'il a eu. Et vite, met la voiture en route. Et file, file. Il est arrivé juste alors à son travail. Petit à petit, il reprend son calme et se sent satisfait de sa vie tranquille. Il ne pense plus à cette fille. La journée passe normalement. Après son travail, il nettoie sa voiture, va faire des courses et entre chez lui tranquillement. Il se sent heureux, très heureux de cette vie. La nuit, bien entendu, le corps de la femme vient le tourmenter. Bien sûr, lui, ça le revient très vite, un fantasme, ou plutôt un petit picotement. Mais à rien. Deux jours plus tard, en entrant chez lui, plutôt en s'apprêtant d'entrer chez lui,
la porte de celui de sa propriétaire s'est ouverte. C'est elle. Elle lui dit, monsieur, il est venu ici une femme. Qui disait vous voir. Je lui ai dit que vous étiez absent. Elle m'a dit qu'elle reviendrait. Cette personne m'a bien l'air d'être une fille. Ici, c'est une maison sérieuse. Je ne veux pas m'occuper de vos affaires. Savoir ce que vous qui vous recevez. Mais je vous demande, c'est d'être discret. Elle m'a pas l'air d'être bien discrète, elle. Il est tout rouge, il ne sait que dire. Il a honte. Elle est en colère contre cette fille qui vient jusqu'à chez lui. De quel droit elle vient le déranger? Il rentre chez lui sans rien dire. Il se dit que si elle vient, il la mettra à la porte. Demi-heure plus tard, le téléphone sonne. Il a décroché. C'est moi, Babette. Ça va? Il est surpris et gêné. Il lui dit. Oui? Il lui dit. Tu es surpris hein, de m'entendre. Tu sais comment j'ai eu... Comment j'ai fait pour avoir ton adresse? Eh bien, avec le numéro de ta voiture... J'ai téléphoné à la préfecture pour avoir l'adresse de cet enfoiré qui m'a embugné ma voiture. Ils ont fait ni une ni deux, ils l'ont donné. J'étais heureuse, tu ne peux pas savoir. J'avais peur qu'on ne se revoie plus. Toi, tête en l'air, t'as oublié de me la donner. Heureusement que Babette a de la tête. Je suis sûre que tu n'aurais jamais osé venir me voir. Tu es si timide. Ça aurait été bête qu'on ne se revoie plus. Mais si j'avais pas été te chercher, tu aurais jamais osé revenir. Je suis allé chez toi. Ta leuseuse, elle n'a pas l'air commode. Elle n'est pas baiseuse. Heureusement. Parce que je suis jalouse. Pas toi. Bien sûr, vous les hommes, c'est pas la même chose. Ça vous excite de savoir que votre femme va avec un autre. Pas toi? Dis donc, avec tout ça, j'ai envie. Pas toi? Il ne sait plus. Elle lui dit, bon, à un de ces jours, je dois m'occuper des petits. Je t'embrasse de ce que tu as de plus sensible, ton petit gland. Travailler dans un standard héros. Alors tu vois, il m'en reste quelque chose. À bientôt. Raccroché. Il se sent gêné. Et en même temps, ça lui donne envie, cette conversation. Mais il ne fera rien, non rien pour la revoir. Il aime mieux être seul. Et sa vie reprend. Dans la semaine, après son travail, il va revoir ses parents comme ça pour avoir de ses nouvelles. Ça lui paraît bizarre de retrouver sa rue, l'immeuble, la cité. Il a l'impression de revenir d'un très long voyage ou d'une très longue maladie. Il a l'impression que les choses qu'il voit sont plus petites que dans ses souvenirs, que c'est un autre monde. Rien n'a changé, les gens non plus, et lui a changé. Il vit dans un autre monde, a vu d'autres choses.
et émue de revoir sa rue, une rue toute simple et qui est même un peu triste puisqu'il n'y a rien. Tout un côté, l'autre côté de la rue, c'est un gros long mur gris. Les magasins sont les mêmes. On dirait que malgré la rénovation, la cité s'est arrêtée aux années 30 ou 60, en cité vieillie. Les jeunes sont toujours assis sur leurs bancs, comme leurs parents et les anciens parents. Mais il y a plus de visages étrangers que dans les années 60. Il retrouve son allée et la trouve petite et sombre. Sonne à la porte de ses parents. La porte s'ouvre, c'est sa mère.
Ah, oh, tu es là? Entre.
Il entre. Bonjour, maman. Il l'embrasse. Elle lui dit,
tu fais attention, j'ai la vue par terre.
Et il va au séjour sur la pointe des pieds. Ils le trouvent petit et se demandent comment ils ont fait pour vivre dans un endroit si petit. Ils trouvent sa mère plus petite aussi. Ils s'assoient à table. Elle lui demande, tu es venu pour quelque chose? Il est déçu. Il oubliait qu'il allait. Il croyait qu'il allait être bien reçu, qu'on allait être heureux de le revoir. Il lui dit, non, je suis venu te dire bonjour. Elle lui dit, c'est bien ça. Et elle s'assoit en face de lui. Elle lui dit, ton père ne va pas tarder. Ça lui paraît étrange d'être en visite chez ses parents, ici, là où il a vécu. Entend du bruit à la porte. Elle lui dit, ah, voilà ton père. Elle se lève et sort de la pièce. Et il entend son père dire, ça va? Elle lui dit, ton fils est venu. Ah, qu'est-ce qu'il a? Elle lui dit, rien. Ça lui fait mal de voir que ses parents croient qu'il vient les voir pour quelque chose et non parce qu'il a envie de les voir. Il a moins envie de venir les voir. La porte s'ouvre, son père apparaît. Il se lève. Bonjour, papa. Il s'embrasse. Il trouve son père plus petit, plus vieux. Il a pitié de lui. Il ne sait pas pourquoi, mais il a envie de pleurer. Son père lui dit, ça va? Oui. Il s'assoit en face de lui. Sa mère s'assoit à côté de son mari. Il ne sait pas quoi se dire. Ce n'est pas facile d'être en visite chez soi. Sa mère lui demande, ça va la santé? Il lui répond, oui, son père, elle travaille. Aussi. Il parle de banalité, entrecoupé de longs silences. Il se sent gêné. Comment s'en aller? Il ne sait comment. sais comment partir, prendre congé. Le temps passe. Le père bâille, fait des signes à la mère qui ne répond pas. Le soir tombe. Il sent qu'il les gêne, qu'elle lui fait du mal. L'on n'y voit pas beaucoup et il n'éclaire pas. Après un long silence, il a le courage de leur dire: je m'en vais vous m'en aller. Son père lui dit: déjà? Oui. Il se lève.
Ils sortent de la pièce. Et vont jusqu'à la sortie. Ils s'embrassent. Son père lui dit: si quelque chose ne va pas, n'oublie pas de venir. De venir nous le dire. Non, ça va. Et il sort de l'appartement. Il a envie de pleurer et est triste. Reste une seconde derrière la porte pour reprendre son souffle. Il entend son père dire: ouf, j'ai une de ces faims, j'ai cru qu'il n'allait jamais partir. Sa mère dit: il est venu pour se faire payer à manger. Il est effondré, se dit que ses parents n'ont pas voulu lui offrir une assiette de soupe et ont cru qu'il était venu pour faire le pique-assiette. Il est triste, très triste. Descend les escaliers. L'allée est sombre, très sombre. Il n'y a pas assez de lumière. Dehors, la rue est sombre. On entend le bruit de la télévision et des gens qui parlent en mangeant. Il se dit que ses parents font partie de ce monde qui le rejette. Une fois qu'on en a quitté un endroit, on l'a quitté pour toujours. Même si on y revient, ce n'est plus la même chose. Les gens, les choses vous rejettent et vous avez changé.
Mais
vous pouvez apprécier que lorsque vous avez quitté les lieux que vous avez vécu et les gens que vous avez aimés,
se retrouvera au milieu de la nuit en plein flirt avec Peter Nicholson.
On voit moins vite le temps passer si l'on reste toujours au même endroit et si on ne retourne jamais dans les lieux où on a vécu et qu'on ne voit pas les gens qu'on a aimés et perdus de vue. Maurice prend sa voiture.
Chaque soir après la représentation, tout Paris se bouscule dans la loge d'Oscar. Mais ça prendrait l'avantage pour lui couper le sifflet.
Et se dit: une page est tournée.
Oscar est né il y a 30 ans, en 1945, au lendemain de la guerre.
Sur son ancienne existence, vie. Mais il met la voiture en route.
À la rencontre des armées américaines qui chassaient l'envahisseur de notre territoire. Dans l'atmosphère d'allégresse patriotique et de calme.
Thank you.
J'ai été traité comme un étranger, que l'on croyait qu'il quémandait. Il se dit que si un jour il a besoin d'aide, il ne demandera sûrement pas à sa famille. Les jours passent. Et un soir, en sortant de son usine, il voit devant la sortie Babette, en rouge, en robe rouge, mini. Tous ceux qui sortent la voient et la regardent. Un homme lui dit, dis donc, elle a choisi notre trottoir, celle-là. Laurent est tout rouge et a honte. Elle accourt à lui. Salut! L'embrasse sur la joue, devant tout le monde. Tout le monde est autour d'eux. Elle lui dit, je suis venu parce que j'aimerais c'est que tu m'amènes à Carrefour Vénitieux. J'ai des courses à faire. Comment refuser quelque chose à une fille avec qui on a fait des choses ensemble, enfin, des trucs intimes. Elle lui dit, alors on y va parce que les gosses attendent à la maison. Ça m'ennuie de les laisser seuls trop longtemps. Et il l'amène à la voiture et la fait rentrer dans la voiture. Tout le monde les voit. Elle lui dit, j'ai fait une liste, ça ira très vite. Et il met la voiture en route. T'es pas heureux de me voir? Oui. T'es pas manqué? Il lui dit. Oui. Hein, je t'ai manqué, hein. T'es bien heureux de me voir, hein. Elle lui dit. Tu vas voir, ce soir, ça va être la fête. Je suis tout excité. Et je me suis acheté un de ces machins tout noir. Pour exciter, hein, oui, 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 ya, 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 ba, ba, boum, boum. Ils arrivent à Carrefour Vénitieux sur le parking. Il y a du monde, des voitures partout, des caddies, des badauds qui vont, qui viennent. L'horreur. C'est le vendredi soir, il y a foule pour les courses. Tous les ploucs
des huppes citées font leurs courses. Les grosses mémères en robe à fleurs, les mâles à moitié ivres, le regard vague, le visage rongé. Et cette foule de jeunes qui viennent voir s'il n'y a pas quelque chose à chiper, des filles habillées en garçons, des garçons habillés en rapport, des caddies qui traînent de partout sur le parking. Laurent a envie de s'enfuir. Elle semble à l'aise dans ce bazar, dans cette cour des miracles. Et elle lui dit, n'oublie pas de prendre un caddie. Et prend un caddie qui roule tordu. Et il rentre dans le magasin. Lumière criarde, musique à fond, le cri de la foule, les appels à la promotion, ça sent la lessive et autre chose. Il y a des femmes voilées, des hommes à barbe, des jeunes en rapport, des mémères, des pépères, des Africains habillés en Africains. Il se dit qu'il doit être le seul à être normal au milieu de tout ce bazar. Et puis il y a tellement de monde. Bien sûr, c'est vendredi. Le vendredi, c'est les courses des mémères. Il y a des difficultés à avancer. Et en plus, il y a tout ce monde. Caddies. Des caddies se croisent, se cognent. Elle semble à l'aise au milieu de tout ça. Et la liste de ses commissions, elle lui dit, allons voir la lessive, là-bas, au fond. Pour y arriver, c'est le vrai parcours du combattant. Ils se font attraper. Il faut attraper le paquet de lessive. Ça se faufile au milieu de se faufiler au milieu de cette foule pour prendre le paquet. Il s'est trompé trois fois. Il a pris de l'homo au lieu de prendre autre chose. Puis ils sont allés à l'alimentation. Là, ça a été l'horreur. Elle voulait choisir et visiter entre plusieurs marques. Elle a hésité plusieurs fois. Puis elle oubliait toujours quelque chose. Ah, j'ai oublié.
Vous vous porterez mieux car tous les habits sont dangereux. Vous enlèverez votre niveau de vie. Vous aurez plus de confort.
Les yaourts de mer grand.
Vous aurez gagné un peu ça. La sobriété, c'est une vie améliorée.
Le formidable.
Laissez celle de la petite. Ils y sont retournés plusieurs fois. Faut que dit le caddie est plus que plein. Ça déborde à ras-bord. Il ne roule plus. Elle lui dit, dimanche en point douceur, colorant pour mes cheveux, hein? Ils ont été obligés, c'est de refaire tout le parcours du combattant.
Le jus de fruits est le rafraîchissement idéal de la famille.
Et comme il n'y avait pas plus de shampoing, elle était obligée, c'est d'en choisir un autre. Et ça a pris du temps. Laurent a la tête qui tourne.
ne sait plus où il en est. Il veut se coucher et dormir. Et puis, il a fallu aller jusqu'à la caisse. L'horreur des maîtres de queue. Certains dépassent les autres parce qu'ils sont handicapés, vieux, violents, arrogants. Des insultes, des cris, des chiffres, des gris, des gifles, des vols. Il faut une demi-heure pour arriver jusqu'à la caisse.
Et le faux de coule. Retourne un bouton et la cuisinière fonctionne. Et vous dites ça, c'est bon. Pour 2 à 3 000 francs par mois, vous pouvez avoir un de ces appareils. Oui, vous me direz, tout ça c'est bien joli, mais il faut le payer quand même. D'accord. Mais écoutez-moi.
Puis, la personne qui était en face de Laurent, une fois que tout a été enregistré, son caddie remonté, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas d'argent, qu'elle n'avait pas sa carte.
La sobriété, c'est une...
La caissière a appelé un responsable. Le responsable est venu un quart d'heure plus tard. Il a dû appeler ses chefs pour effacer la note, puis prendre le caddie et faire partir la cliente qui hurlait. Vous pouvez bien faire crédit ? Non ! C'est au tour de Laurent qui range tout sur le tapis. Puis, il remet tout dans des sacs très minces. C'est pas facile à ouvrir ces sacs. Ils sont trop minces, il faut les doubler. Ils sont minces que du papier à cigarette. Ça prend du temps. Laurent a chaud. Il fait triste mine parce qu'il entend les gens qui rouspètent. Les supermarchés font travailler, toujours travailler, les clients à la chaîne et basta. Il faut toujours courir pour ranger ses affaires, autrement ça gueule et la caissière fait la grimace. C'est l'horreur. Il faut aller vite pour vider le caddie et vite pour mettre les choses dans un sac et les mettre dans le calier. Même s'il ne veut pas s'ouvrir le sac, et il faut aller très vite pour mettre le sac dans le caddie. Plein, essoufflé, épuisé, le caddie de Laurent est plein de sacs. La caissière dit le prix. Votre carte. Babette, qui le voit, va réagir, lui dit « Donne ta carte, voyons !» Et il la donne, sa carte, sans savoir combien ça fait. Puis, il sort, étourdi, épuisé. Il fait nuit noire. Il ne sait plus où il a mis la voiture. Bien sûr, c'est tellement grand et il a fait tellement de choses. Il met un quart d'heure à passer avec son caddie qui ne roule pas au milieu de gens, de voitures qui rentrent, qui sortent. Et en plus, le parking est mal éclairé. Enfin, il voit sa voiture. Il y va, épuisé. Arrive vers eux une bande de 4 jeunes gens rappeurs. Un des jeunes demande à Laurent « Tu me donnes quelque chose ?» Laurent, fatigué, lui dit « Non !» Le jeune lui crie « Salaud, putain de merde, nique ta mère, enculé, sans le pédé !»« Je vais te casser ta figure !»« Si tu ne me donnes pas quelque chose, je te prends ton caddie !»« Fais attention, putain !» Je te rase, saloperie, je te... Il prend le caddie des deux mains et le gigote. Les sacs tombent à terre. Laurent sent qu'il va se passer quelque chose. il risque de s'envenimer et on risque de le traiter de sale race, etc. Il crie, foutez-moi la paix. Le jeune lui dit, et là, toi, poufias, boucle-la, autrement je t'encule, salope. La bête le gifle, il lui donne un coup de poing, elle tombe à la renverse. Laurent en a assez, furieux, donne un coup de poing au un jeune. Le jeune sort un couteau à cran d'arrêt et lui dit, qu'est-ce que tu dis que ça? Laurent le recule. Le jeune en profite pour prendre le caddie et se sauve en courant. Laurent leur court après. Les jeunes ont pris trop d'avance. Ils mettent le caddie dans une vieille camionnette et partent. On a marre, marre, marre. Il retourne vers la voiture. Elle lui dit, bon, eh bien. Il lui dit, on rentre. Il ouvre la portière de la voiture. Il lui dit, et mes courses alors? On va rien manger? Il lui fait, quoi? Elle lui dit, faut les refaire. Il la regarde effarée. Elle lui dit, nous avons le temps, c'est vendredi. Ça ferme à 22h. Viens, prends un caddie, dépêche-toi, les enfants attendent. Elle lui tend un caddie et lui dit, t'en fais pas, va, tu auras une récompense. Comme tu les aimes. Elle se passe la langue sur les lèvres et se suce le pouce. Viens. Et il retourne au magasin. Et le caddie est plus lourd qu'avant, parce qu'elle avait oublié la première fois des choses. Elle lui dit, tu vois, une mauvaise action peut en cacher une bonne. Comme ça, ça m'a permis de prendre tout ce dont j'avais besoin. Ils arrivent chez elle les 22h30. Comme l'ascenseur est en panne, ils doivent porter tous les paquets à pied. Elle fait une fois l'étage avec lui et c'est lui qui fait plusieurs fois les étages. Les 23h, il est complètement épuisé, assis à la cuisine. Elle, elle déballe et range ses provisions. Tu vois, c'est pratique de faire les courses dans ce supermarché. Mais c'est pas combien ça lui a coûté et combien il lui reste sur son compte. La petite fille va vers eux. Elle dit, maman, j'ai faim. La mère lui dit, je sais mon chéri, mais on est arrivé en retard. Dès que j'ai fini de ranger, on mange. Elle regarde sa montre. Oh, mon chou, depuis, il est déjà 11h30. Heureusement que demain, il n'y a pas de classe. La fille dit, je veux mes sucettes. La mère lui dit, tu les auras quand on les aura trouvées. La fille dit, non, je les veux maintenant. La mère soupire et dit à Laurent, cherche-lui donc ses sucettes, toi. Tu ne fiches rien. J'en ai marre, c'est toujours moi qui fais les choses dans cette maison. Laurent ne dit rien. Il a envie de tout laisser tomber. il cherche tout de même des sucettes de la fille. Dans les sacs, en plastique, Carrefour. C'est des vrais sacs plastiques Carrefour. C'est une exclusivité écran radiophonique. Demi-heure plus tard, ils mangent tous du jambon sous plastique qui est tout mouillé et a des gouttelettes au fond. Ils ont le goût des bonbons au colorant. Elle se détend et lui dit « Je suis satisfaite de ma journée. » Lui est complètement à plat. Puis, il a fallu c'est coucher les gosses qui ne veulent pas y aller parce qu'il y a ce rareté des Laurel et Hardy à 1h du matin. Après des pleurs, des cris, les enfants sont allés se coucher. Et eux aussi. Il a eu sa récompense comme promise. Le dimanche, il la passe chez elle. L'après-midi, il est allé avec les gosses dans un champ. Les enfants se mettent à l'aimer, à les traiter gentiment et même lui faire des mamours. Lui les aime bien. Ces petits blondinets se sentent plus proches d'eux. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, plus en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.